Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collot, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité artisanale et traditionnelle, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine. Alors je suis très content parce que l'épisode de la semaine dernière a très très bien fonctionné, ça fait plaisir. C'est l'épisode que j'avais sobrement nommé « Je vous parle à cœur ouvert », un truc comme ça. Et j'ai eu pas mal de retours en message privé, donc c'est un épisode qui a mieux fonctionné que les autres. Et ça c'est cool, je crois que c'est déjà le deuxième épisode le plus écouté de tous mes podcasts. Sachant que là, on est au 10e, donc ça fait plaisir. Il n'y a que le premier, parce que bah, c'est le premier. Que les gens ont commencé par écouter le premier, qui fonctionne mieux à l'heure actuelle. Après, je suis très très loin des meilleurs podcasts dont j'ai cru entendre de temps en temps le nombre d'écoutes qui me semble stratosphérique. Moi, ça reste quand même quelque chose d'assez sobre, hein, en centaines ou milliers d'écoutes, mais pas un truc de fou. Mais ce qui est toujours cool avec ce format-là, c'est que vous qui m'écoutez, bah, vous prenez le temps, vous prenez plusieurs dizaines de minutes chaque semaine. Et donc, on voit que c'est le cœur de la communauté, les gens qui ont vraiment envie d'écouter quelque chose de plus long qu'une simple vidéo de 20 secondes sur Instagram. Et d'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, on va redécouper le podcast en quelques catégories, mais quelque chose de très bref, c'est parce que c'est le truc où j'ai eu le plus de retours, c'est les gens qui m'ont dit « Ah, mais on voudrait quand même un conseil ou un avis sur resto, un truc sympa à tester et tout. » Donc, voilà, dès que j'ai quelque chose de sympa que j'ai dégusté ou un resto cool que j'ai visité, je vais vous en reparler, mais très brièvement. Et comme ça, de podcast en podcast, vous pourrez tester différents trucs repartir à la découverte de certains produits, soit que vous ne connaissez pas, soit que vous avez connu étant jeune, et vous pourrez les regoûter. Et ça, j'avoue que c'est cool comme système. Je voulais le mettre en place, j'ai arrêté. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui devrait rester. Et on va tout faire pour. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un truc qui est... Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que voilà, moi, mon envie, c'était de faire du contenu sur ma quête de réenracinement, etc. Et le problème que j'ai, c'est que moi, je suis une bouse en production vidéo, en création artistique même. J'ai du mal à... Enfin, mon cerveau, il n'est pas fait. En fait, je suis un commercial. Moi, mon truc, c'est vendre. C'est vendre, c'est raconter même une petite histoire pour vendre, c'est faire du lien social. Alors, c'est pas jouer le lien social et jouer des trucs. C'est juste que naturellement, je suis sociable avec les gens. J'arrive assez rapidement à faire copain-copain. Je m'entends bien avec bah, même les clients ou même des gens autres que pour du business. Et moi, et en plus de ça, c'est ce que j'adore faire dans la vie, c'est rencontrer un restaurateur, vraiment devenir taper la discute avec lui, comprendre ses problèmes, l'aider dans certains points, lui fournir un produit que lui, il voulait vraiment avoir, et manger chez lui, le revoir, etc. Et en un an et demi, depuis que j'ai ma marque de Michelot, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, il y a vraiment des restaurateurs à Paris avec qui je suis devenu très copain. Et en fait, quand j'ai lancé ma marque, moi, je pensais que tout ça... en fait, j'ai fait comme tous les jeunes qui lancent un truc. On pense qu'on va révolutionner le monde. Et je me suis dit, tous ces cons, ils n'ont rien compris. Avoir des commerciaux et tout, ça ne sert à rien. On peut tout faire sur le digital. En plus, j'ai un gros compte Instagram. Ça suffira pour lancer une marque et toucher plein de restaurateurs. Et bah, au bout d'un an et demi, je dois avouer que j'ai eu tort. J'ai eu tort. Là, j'ai repris le terrain depuis... Alors avant, au début, je faisais beaucoup de terrain. Puis ensuite, je me suis beaucoup concentré. En fait, j'ai fait beaucoup de va-et-vient, beaucoup concentré sur mon compte Insta. Puis j'ai refait un peu de terrain. Puis j'ai essayé de mixer les deux. Et en fait, je vais vous en parler. Faire que du digital m'a causé énormément de problèmes comparé au terrain, en fait. Que ce soit des questions d'organisation du travail, des questions de productivité, de lien social, et après, tout ça se traduit en chiffre d'affaires. C'est pour ça que moi, la marque Maquisard que je fais, qui est quasiment entièrement, si ce n'est entièrement, dédiée à la vente en ligne, je trouve ça très cool parce que. Parce que c'est des éditions limitées et ça va toucher un certain public. Mais quand on veut faire une marque pérenne, donc avec des volumes importants, et bah en fait il faut faire du terrain. Donc justement, petite encart promo pour les futurs Maquisards. Donc Maquisard, qui est ma marque d'embouteillage dépendant. Donc pour ceux qui savent pas, je vais dans des distilleries que j'ai sélectionné, je rencontre les distillateurs, voilà, je fais le tour des chais où il y a tous leurs fûts d'alcool. On goûte plein de fûts, j'en choisis un qui a une identité exceptionnelle comparée aux autres selon moi, je vois si je peux l'acheter, je l'achète, je le mets en bouteille sous ma marque qui s'appelle Maquisard. Et on les embouteille au degré naturel, donc par exemple les 5 bouteilles que je vais sortir fin mai là pour la fête des pères, donc on va essayer de viser entre le 20 et 25 mai, il y en a pas mal qui me demandent la date en message privé. On va essayer de viser entre le 20 et le 25 mai pour la sortie. Ce n'est pas une prévente, hein, donc vous achetez 2 jours plus tard, vous la recevez chez vous. Donc on a 5 bouteilles, toutes sont à plus de 50 degrés, parce qu'on embouteille à un degré naturel, donc on ne réduit pas à l'eau, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des alcools qui sont vraiment des expressions de terroir extrêmement fortes et uniques. Vous ne retrouverez jamais la même bouteille de l'histoire, en fait. Ce n'est pas possible, parce que les fûts donnent des identités propres à chaque distillat qu'ils contiennent. C'est comme les empreintes digitales. Donc, à partir du moment où le fût est vide et n'a pas été mélangé avec d'autres, l'identité de ce fût-là, vous ne le retrouverez jamais. Donc, c'est tout là l'intérêt de mon métier d'embouteilleur indépendant sous la marque Maquisard. C'est de sélectionner et d'identifier une perle, de la capturer et de faire en sorte qu'elle ne soit jamais mélangée avec d'autres choses pour que on puisse la goûter à l'état brut. Donc pour la fête des pères, on sort un gin. Alors là, pour le coup, j'en parle en premier parce que ce ne sera pas Maquisard. D'ailleurs, c'est dommage qu'on l'ait pas fait. Enfin, on l'a pas fait sous le nom Maquisard pour différentes raisons, mais il n'y a pas forcément besoin d'expliciter ici, mais surtout des raisons de packaging en fait. Donc ça sera un embouteillage d'Ose de France. En collaboration avec Citadel, donc Citadel, la première marque de gin craft de l'histoire française. En 29 ans d'existence, elle est née en 1996, qui est ma date de naissance, donc c'est cool en plus. Elle a jamais fait de collab avec qui que ce soit, donc c'est la toute première fois qu'elle fait une collab avec un embouteilleur. Il y aura seulement 60 bouteilles en vente. Donc c'est un gin qui a passé 3 ans de vieillissement en fût de merisier. Donc ce qui est assez rare, c'est d'habitude on utilise du bois de chêne pour faire vieillir les alcools. Là c'est un fût de merisier, ce qui donne un goût noisette vert assez impressionnant à ce gin. C'est vraiment une particularité organoleptique qui est assez dingue. Et ça sera vendu normalement 50 euros et il y a seulement 60 bouteilles. Ensuite, il y aura un cognac de la maison Ferrand, enfin cognac Ferrand, qui sera un cognac Grande Champagne. Donc ça, c'est le cru, le terroir Grande Champagne, qui est entre guillemets le cru le plus noble. J'aime pas forcément dire ça parce que c'est, il y a des cognacs qui sont très bons dans tous les crus, mais c'est le cru le plus recherché et tout quoi. 100% uniblanc, donc ça c'est la variété de raisin, le cépage. Le cognac qui sera à 50. 1,5 degrés, je crois, dans mes souvenirs. J'ai pas les fiches sous les yeux là, mais globalement, de toute façon, tous les 5 alcools que je sors là, ils sont tous à plus de 50 degrés. Non, sauf un qui est à 48,4. Donc le cognac, il sera à 51 degrés à peu près. Et il a passé tout son vieillissement. Donc, c'est un cognac qui a 13 ans, donc de 2012, qui a passé tout son vieillissement en fût de chêne, qui avant contenait du vin rouge de Pauillac, donc le vin rouge bordelais. Donc il a une couleur rougeâtre, incroyable, une super profondeur, un fruité, un peu de tanin et tout, donc c'est vraiment sublime. J'essaye de passer vite, mais de faire un récap quand même. Ensuite, on sent un calvados de la maison Christian Drouin. Donc, c'est un calvados qui a 10 ans. Enfin, c'est un 2014, mais bon, comme on est en début 2025. Et il a passé ses 15 derniers mois de maturation dans un fût de whisky écossais Arran. Et ça donne du gras, un petit côté céréalier. Voilà, c'est très intéressant. Et lui, il sera à 48,4, je crois, en termes de degrés, et vendu 85 euros. Et le cognac vendu 85 euros. Alors, j'essaye de faire propre, pardon. Le cognac sera vendu 85 euros et il n'y aura que 60 bouteilles. Le Calvados sera vendu 85 euros et il y aura 120 bouteilles en vente, plus 120 bouteilles, mais uniquement pour le Québec. Donc, si vous êtes au Québec, que ce Calvados vous intéresse, contactez-moi et je vous enverrai le compte Instagram de mon importateur et il pourra, enfin vous pourrez voir avec lui du coup pour en avoir. Donc il y en a 120 pour la France, 120 pour le Québec. Quatrième bouteille, ça sera un Armagnac de la maison Laballe. Très très heureux, jus très différent de tout parce qu'il est extrêmement jeune. C'est un 2023 bio qui a vieilli dans un fût de chêne qu'on dit grain fin, donc une micro-oxygénation avec en fait, c'est les pores du bois qui sont très fins, donc l'oxygène passe beaucoup moins, quoi. Donc c'est une oxygénation plus lente, et ça donne une eau de vie qui est très élégante, de la vraie dentelle. Là, il y aura 160 bouteilles en vente, et il sera au prix de 60 euros. On a vraiment essayé de faire des trucs accessibles, quoi. 50, 60, 85. Et là, le dernier qui sera le plus cher, c'est un whisky du domaine des Hautes-Glaces, distillerie dont la réputation n'est plus à faire. Pour moi, c'est top 3 distilleries les plus connues, reconnues en termes de whisky en France. Je devrais pas dire ça, parce que je vais me fâcher. Je vais pas dire qui sont les deux autres. Je vais me fâcher avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment une distillerie exceptionnelle et qui a une énorme réputation dans le monde des amateurs de whisky. Donc là, ce domaine des Hautes-Glaces, c'est un 8 ans d'âge. Moisson fait en 2016, donc un an avant, qui commence à être, que le compte d'âge commence. C'est 100% orge, donc c'est un single malt. Vieilli dans un fût qui avant contenait du cognac, donc un ex-cognac. Et il y aura 100 bouteilles en vente, bio aussi d'ailleurs. Bah, en même temps, dans le domaine des glaces, tout est bio. Puis sur l'étiquette, on a même écrit le nom de la ferme, d'où ça venait, la variété d'orge. Enfin bref, vous connaissez la chanson pour ceux qui connaissent déjà Maquisard, la traçabilité et l'identité des jus qu'on commercialise, c'est très important pour nous. Et ce sera à 51 degrés, il y aura seulement 100 bouteilles disponibles au prix de 105 euros. Donc là, pour ceux qui connaissent le whisky, 105 euros sur un domaine des Hautes-Glaces de 8 ans, c'est vraiment pas cher, quoi. En brut de fût, donc 51 degrés. Vraiment pas cher. C'est vraiment Maquisard, c'est fait pour que les gens qui ont envie de se mettre aux très bons alcools puissent le faire. On veut vraiment être une passerelle pour ces gens-là, ceux qui aiment bien et qui ont envie de redécouvrir des terroirs et qui savent pas trop quoi boire, qui ont quand même quelques connaissances de base et qui boivent quelques bons whisky, en fait, qui sont sortis de la catégorie des whisky ou alcool, rhum de merde, qui boivent des choses de grandes marques, qui sont quali, mais qui restent des trucs génériques, et qui veulent maintenant passer le step d'au-dessus, l'étape supérieure, pour arrêter de faire des anglicismes d'enculé, qui veulent vraiment découvrir des trucs exceptionnels, avec une identité rare, qu'on retrouvera jamais en grande surface, difficilement chez les cavistes. Des produits, des ovnis en fait, c'est vraiment. Tiens, mais moi j'adore en fait ça, je vis mon putain de métier de rêve, j'adore faire ça. Je suis tellement heureux de sortir ce produit. Et donc ceux qui veulent passer cette étape-là, avoir des bouteilles d'exception chez eux et vraiment découvrir des saveurs uniques qui normalement sont pas dans les éditions génériques, là, cette marque elle est faite pour ça. Normalement, c'est des bouteilles qui devraient être vendues très très cher. Et nous, on fait en sorte. Franchement, pour être transparent avec vous, je compresse ma marge parce que bah déjà ça ramène du trafic sur mon site et quand on vend Maquisard, bah, on peut vendre aussi quelques produits à côté, d'autres bouteilles qu'on vend. Et j'ai vraiment fait cette marque pour créer des nouveaux amoureux de l'alcool, parce que c'est quand même une passion qui coûte cher. Et que et voilà, faire vraiment une passerelle. Et ensuite, peut-être que plus tard dans l'avenir, si Maquisard continue de bien s'installer, comme c'est le cas aujourd'hui, on fera des bouteilles d'exception qui coûtent très cher. Et certains d'entre vous qui veulent mettre les moyens ou qui ont les moyens pourront se les acheter. Je sais pas, moi, un cognac à 400 balles extrêmement vieux des années 60 ou 70, des choses comme ça, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc je compresse ma marge parce que je vends tout en ligne en direct. En fait, je vends tellement pas cher comparé à ce que je devrais vendre en termes de prix que je ne peux pas les vendre aux cavistes pour que les cavistes les revendent à leurs clients derrière. Pour vous dire, c'est tellement pas cher que je suis contraint de les vendre sur mon site internet. Un caviste ne peut pas me l'acheter parce qu'il ne gagnerait pas sa vie dessus. Voilà. Donc je fais pas, je dis pas ça pour faire Mère Teresa, je dis ça pour vous expliquer. Quel est mon objectif avec la marque Maquisard? C'est vraiment que des gens puissent découvrir des nouveaux alcools sans forcément se ruiner, mais quand même, ça coûte un certain prix. Donc, c'est des gens qui sont déjà engagés dans la passion et qui veulent aller à une étape ou à un niveau au-dessus. Voilà. Donc, l'instant promo est terminé. Tout ça sortira normalement autour du 20-25 mai. Donc, si vous voulez l'acheter pour vous ou pour votre père, votre grand-père, pour la fête des pères en gros, qui est le 15 juin, petit rappel, puisque je sais que c'est quasiment une majorité, si ce n'est une totalité de mecs qui écoutent ce podcast, et nous, on est très fort pour oublier les dates, ce genre de date-là. La fête des pères, c'est le 15 juin, et du coup, on sort ça 3 semaines avant pour que vous puissiez l'acheter et être sûr de la recevoir. Mais cette fois, ce n'est pas une précommande. Donc, normalement, vous l'achetez en 2 jours, vous le recevez. Hein. Donc, si vous l'achetez le 10, 11 ou 12 juin, c'est toujours bon. Mais achetez-le quand ça sort. Achetez-le quand ça sort. C'est des éditions très limitées. Donc, achetez-le quand ça sort. Voilà. Bon, petit instant promo terminé. En plus, je vous donne deux, trois indications dedans. Donc, pas que de la promo, on apprend aussi quelques trucs. Et je voulais revenir, du coup, sur mon boulot à plein temps, qui est de faire commercial pour ma propre marque et pour les distilleries que je distribue sur mon site internet de michelot.com. Donc moi, j'ai fait l'erreur que beaucoup de jeunes faisaient, c'était de croire que le digital allait remplacer le terrain et de me croire plus malin que les autres en pensant que c'était vraiment l'avenir. Alors le digital, en fait, c'est une... En fait, je vais vous décrire des situations pour que vous compreniez. Le digital, pour moi, c'est une béquille qui facilite le terrain. Concrètement, comment ça se passe dans ma vie quand je fais une tournée commerciale? Moi, donc on divise les établissements entre ceux qui sont déjà clients, ceux qui sont des clients plus, c'est-à-dire qui achètent très régulièrement. Il y a limite des fois même pas besoin de retourner les voir, ils rachètent ou ils t'envoient un message ou c'est devenu quasiment des amis. Et il y a les prospects, donc ceux qui ne te connaissent pas forcément ou qui te connaissent vite fait ou à qui tu as déjà eu un contact, à qui tu n'as jamais vendu et c'est un endroit où tu as envie de t'établir, quoi. Moi, l'avantage que me donne le digital, c'est pour ça que je dis que c'est une béquille, c'est que déjà, il y a une bonne chance que le patron de l'établissement me connaisse, peut-être qu'il ait déjà vu ma gueule, donc ce qui donne une accroche pour lui parler et qui brise la glace de « Salut, je suis commercial en alcool français, est-ce que vous voulez faire un déguste? Non, j'ai pas le temps, va te faire foutre, j'achète déjà à telle grande chaîne qui me fournit tout, dégage. » Bon, il parle pas comme ça, hein, mais en gros, c'est ce que ça veut dire, quoi. Donc là, moi, ça me permet de mettre un pied dans la porte plus facilement. Puis je les ajoute souvent avant sur Instagram. Donc il y en a certains, même je voulais démarcher. Et en fait, je commence à parler avec eux sur Insta. Puis finalement, mon moment de prospection brute où j'ouvre la porte se transforme en rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous avec quelqu'un, machin. On fait une vraie déguste. C'est beaucoup plus facile. Il y a aussi des restaurants qui me contactent directement, ce qui n'arrive jamais à un autre commercial. Qui me contacte directement via Insta pour faire des dégustes, ce qui m'est arrivé hier, par exemple. Et donc tout ça facilite. Mais il y a aussi beaucoup de situations où moi je me retrouvais avec des gens que je croise dans des restaurants, donc des serveurs ou des responsables d'achat ou même des patrons de restaurants, ou même des mecs que je croise à un événement Et ils me disent, ah ouais, j'ai un resto, c'est vrai que ça pourrait être cool qu'on mette tes bouteilles dans notre établissement. Mais le gars, ça fait un an qu'il me connaît, ça fait un an qu'il sait que je vends des bouteilles, mais il n'a jamais fait le rapprochement entre le fait qu'il est restaurateur, le fait que je vends des bouteilles, qu'il pourrait vendre des bouteilles dans son restaurant. Et c'est là, c'est à partir de. En fait, c'est avec la multiplication de ces événements-là que j'ai compris que, en fait, ce qui était important, c'était le terrain. Parce que le digital, surtout Instagram avec les vidéos verticales et tout, ça reste de la consommation pure et dure. Et en fait, c'est pas les gens sont pas des clients, quoi. Si vous verriez l'écart qu'il y a entre mes statistiques sur les réseaux sociaux et mes conversions en vente, mais c'est mes limite, c'est choquant à quel point la 99,9% des gens qui me suivent sont juste des consommateurs de contenu, mais pas des consommateurs des produits que je pourrais faire ou de produits français, etc. Enfin, il y a une vraie différence entre les gens qui consomment le contenu et les gens qui consomment la production du business. C'est vraiment très, très différent. Et au début, je voulais pas y croire, je me pensais plus malin que tout le monde, surtout avec les gros lancements qu'on avait faits uniquement grâce aux réseaux sociaux. Pour ceux qui sont là depuis plus d'un an et demi, on avait lancé la gentiane, donc le tout premier alcool que j'avais lancé, la gentiane de Michelot, sur le site de la Maison du Whisky, qui était mon partenaire au début, qui est toujours mon partenaire d'ailleurs, mais c'est juste que je peux vendre aussi sur mon site. Et on avait fait crash le site de la Maison du Whisky. Erreur 404 et tout, et le site de la Maison du Whisky, c'est quand même quelque chose de très très costaud, c'est une énorme plateforme, c'est en centaines de milliers de visites par mois et tout. Donc le fait de le faire crash, ça veut dire qu'on avait apporté tellement de monde que le serveur n'a pas tenu. Et donc moi je dis, ah, ça y est, on a révolutionné le milieu et tout. Et pas du tout, en fait, c'est un pic, et ensuite derrière, c'est un travail de fond qu'il faut mettre en place pour réussir à continuer à te vendre en permanence, en permanence, en permanence. Parce que les alcools, contrairement au vin ou à la bière, bah les gens, quand ils ont acheté une fois, bah la bouteille, ils ne la vident pas tout de suite. Et ils n'en rachèteront peut-être pas une tout de suite, ou ils rachèteront autre chose. Donc c'est un travail de longue haleine. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, moi, en ce moment, même depuis un an, mes vidéos sur Insta, elles marchent beaucoup moins qu'avant. Et je vous avoue que pendant un an, avant, je me foutais de la gueule des youtubeurs qui disaient, ouais, ça marche moins, mes stats, machin. Je leur disais, vas-y, va te faire foutre. Mais je pouvais comprendre parce qu'ils vivaient des pubs. Et donc, quand tu vis des pubs, enfin des partenariats qu'il y a sur tes réseaux sociaux, bah, tu es accroché à tes stats. Parce que si tu n'as plus de stats, tu n'as plus de pubs, donc tu n'as plus de boîte, donc tu es mort, en fait. Et moi, je suis tellement content d'avoir lancé de Michelot parce que. Bah, je suis beaucoup moins, voire plus du tout dépendant de mes statistiques, en fait. Le seul intérêt de faire des vues, c'est que des gens découvrent que je fais mon business et puissent potentiellement consommer dans les restaurants qui en ont ou me les acheter sur mon site internet. Et j'ai mis pas mal de temps à comprendre et je vous avoue que ça me faisait chier que mes vidéos marchent moins. Et comme j'ai pas la fibre artistique, je suis pas un producteur de contenu. Au-delà de juste faire des petites vidéos et tout, bah, il y a un côté frustrant où je sais pas quoi faire. Je sais un petit peu quoi faire quand même. J'aimerais bien, comme je vous ai expliqué l'année dernière, faire un fil rouge du réenracinement, etc. Mais comme j'ai aucune fibre artistique, bah, je sais pas comment le filmer, je sais pas quel plan faire, quelle histoire raconter, quelle ligne rouge sur plusieurs mois adopter pour que ça fasse une histoire cohérente, intéressante, que les gens aiment écouter. En fait, c'est comme, si vous voulez, c'est comme les mecs qui ont aucun vocabulaire, qui savent pas parler. Bah, c'est souvent des mecs violents parce que en fait ils arrivent pas à parler et du coup ils s'énervent et ils tapent. Et ben bah, moi c'est le même raisonnement mais avec le côté artistique. J'aimerais bien montrer des choses, mais je suis incapable de le faire parce que j'arrive pas à me projeter dans un contenu. Du coup ça m'énerve et je déprime. Et j'ai plus envie de faire les réseaux sociaux, j'ai envie de les jeter à la poubelle. Et c'est la première fois où je me dis, bah écoutez, je m'en bats les couilles en fait, je vais refaire du travail de terrain et on verra bien. Et je vous avoue que là, j'ai repris vraiment à fond, à fond, à fond le travail de terrain et je le priorise sur le fait de faire des vidéos. C'est-à-dire que je me dis, bah si j'ai pas le temps de faire des vidéos, bah j'en fais pas et je m'en bats les couilles. Et putain, c'est infiniment plus rentable en fait. Déjà, c'est rentable pour mon équilibre personnel parce que j'ai un emploi du temps. Je me lève, je vais au sport, je déjeune, je me douche et je sais qui je dois aller voir, quel timing, chez qui je dois manger. J'ai tout mon déroulé commercial, mes notes, etc. Tout est prêt. Et donc, je rentre chez moi après, en fonction de combien de temps a duré mon déj ou si j'ai un rendez-vous après déjeuner. Je rentre chez moi, il peut être 15, 16, 17 heures. Donc, j'ai une vraie journée. Alors que quand je voulais faire que du digital, bah en fait tu te lèves, tu dois faire des vidéos, mais tu es sur ton téléphone, tu es sur ton ordi, il y a un mail qui arrive, il y a je sais pas quoi. Donc en fait, limite, ça fait un an que bah, je pédale comme un dingue, mais dans la semoule. Et en fait, je me rends compte que je parle beaucoup de ma vie, ma boîte, mais c'est pour indiquer, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me parlent du fait qu'ils veulent créer des boîtes. Que le côté entrepreneurial les intéresse, et même moi je suis invité dans des écoles pour parler du côté entrepreneurial. Et donc c'est un petit conseil que je voudrais donner. Même moi, avec un gros compte sur les réseaux sociaux, qui pensait que j'allais pas forcément avoir beaucoup d'efforts de terrain à faire et que ça allait suffire en lui-même, bah, en fait c'est faux. C'est faux, les bonnes vieilles méthodes, elles marchent parce qu'elles ont toujours marché. Et les réseaux sociaux, ça t'aide, mais ça fait pas tout. Ça m'aide, disons, de 10%, quoi. Mais vraiment, vraiment la différence est stratosphérique, en fait. Et donc, j'ai retrouvé une certaine paix d'esprit d'avoir un emploi du temps organisé, d'en avoir rien à foutre de regarder si ma vidéo marche bien, de dire, ah ouais, ma ligne éditoriale et tout, en fait, je m'en tape. Je m'en tape. Je vais essayer de. J'ai même envie de refaire des vidéos qui parlent juste d'alcool. Alors, ça marche pas. Parce que c'est de niche, la plupart des gens s'en foutent. Mais ceux qui s'en foutent pas, en fait, c'est les gens à qui j'ai envie de parler, parce que moi, ma passion, c'est les alcools, de surcroît les alcools français. Et si j'en parle et que ça touche les gens, que ça passionne, et qu'ils veulent en parler avec moi, et bah, c'est tout ce que je veux. Parce que j'ai envie de me retrouver avec les gens qui ont la même passion que moi. Et voilà, enfin, tout ça pour vous dire que je cours plus à plaire les stats, que je refais un max de terrain, que je me régale, que la vraie vie, c'est quand même beaucoup mieux que la vie digitale. J'ai mis pas mal de temps à le comprendre et vraiment, cette semaine surtout, entre le dernier podcast et aujourd'hui, a été vraiment un ressourcement pour moi. Je me suis dit, en fait, je me suis dit ça pendant le GR400 là, que j'ai fait dans le Cantal, ma randonnée. Je me suis dit, vas-y, on va refaire du terrain et tout, parce que c'est ça que j'adore. Et en fait, je fais ça depuis 10 jours et j'adore ça, quoi. C'est vraiment. Là, vous avez en face de vous, enfin pas en face de vous, dans vos oreilles, vous avez un Johan apaisé, qui se sent mieux, qui va bien, qui regarde pas tout le temps son téléphone et tout. Et c'est vraiment une libération totale. Voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça, de vous partager ce petit point, puisque la semaine dernière, je vais parler à cœur ouvert, ça a l'air d'avoir bien plu, donc je me suis dit, bah écoutez, je vais partager ça. Et j'hésitais même à faire en vidéo, mais. Ah oui, il y a un point aussi. C'est avant, quand j'allais au resto, et même je l'ai fait un peu cette semaine, mais là j'arrête totalement. C'est. Je me disais, putain, je suis au resto et tout, donc faut que je filme. Pour faire une petite vidéo au resto, sympa. Et en fait, j'avais tellement pas envie et plus envie de le faire. Mais que ça. Déjà, la vidéo marche pas. Ça me saoule de le faire. Vraiment, ça me fait chier. Et je me dis, bah écoute, je vais partager juste deux, trois photos en story. Comme ça, les gens savent que cette adresse est cool. Et ceux qui ont envie d'y aller, bah ils iront. Et puis voilà, mais non, je vais pas faire vidéo parce que vraiment, j'ai pas envie. Et donc, je vais m'écouter et je vais faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire pas filmer. Et parler avec le serveur, le patron, ou juste être tranquille en train de bouffer, quoi. Et putain, c'est une libération de pas faire ça. Vous n'imaginez. Excusez-moi, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie et le mongolien que je suis a oublié de charger son ordinateur avant d'enregistrer le podcast. Donc là, je colle deux extraits, c'est pour ça que ça a coupé au milieu pendant que je parlais. Donc voilà, je disais oui, ne plus filmer au resto, c'est une vraie libération. Ça fait plaisir et ça peut me permettre de me concentrer sur la vraie vie en fait. Parce que moi, je suis devenu un. En fait, j'ai digitalisé ma vie, mais j'ai digitalisé mon esprit, en fait. En permanence, je suis dans les écrans, sur mon téléphone et tout, et ça me rend dingue. Enfin bon, voilà. Et puis faire des vidéos sur Instagram, ça prend du temps. Faut faire du montage, réfléchir à un mini scénario, machin et tout. Et ben voilà. Je préfère la vraie vie. Et donc, si vous voyez un rythme qui baisse, bah vous étonnez pas, vous saurez pourquoi en écoutant ce podcast. Par contre, le podcast, j'adore ça. Vraiment, ça me régale, même si ça fait beaucoup moins de vues, mais je m'en tape. Donc en tout cas, ça je vais garder le rythme de une fois par semaine et je suis très content de le faire. Et peut-être que je ferai des podcasts un peu hors série dédiés à certains alcools et tout, ça serait cool. Enfin, je vais essayer de mieux travailler ce format-là et de passer moins de temps sur Instagram. Donc vraiment, j'entame une baisse là-bas pour me concentrer sur autre chose et les choses qui me font plus kiffer et qui du coup rendent ma vie, mon quotidien beaucoup plus agréable. Parce que là, je le montre pas forcément parce qu'il faut toujours montrer des trucs qui sont sympas, mais ça allait me faire, enfin ça m'a déjà fait exploser en plein vol quoi, les nerfs, tout ça pour faire des vidéos de merde et niquer ma vie à filmer tout le temps pour montrer des trucs des fois qui sont pas intéressants quoi, ou qui sont intéressants mais comme je suis nul et que j'ai pas de fibre artistique et que c'est pas le moment et que en soi même filmer au restaurant moi, on dirait pas comme ça mais ça me gêne moi j'arrive pas à être à l'aise avec ça et du coup la vidéo sera pas intéressante alors que l'endroit est trop cool juste parce que j'en peux plus voilà et l'autre plateforme que je kiffe aussi c'est Twitter alors je sais que la majorité des gens détestent Twitter moi j'adore ça. Vraiment, ce réseau social, il me régale. Et j'ai demandé à pas mal de gars qui sont pareils dans le même thème que moi, un petit peu terroir, gastronomie, paysage et tout, si je pouvais republier leurs vidéos sur Twitter. Alors, tout simplement parce qu'en fait, sur Twitter, c'est très dur d'augmenter en nombre d'abonnés. Il y a un gros effet viral des contenus, mais les gens s'abonnent pas. Et moi, comme ça fait très longtemps que j'y suis et que j'ai essuyer plusieurs shitstorms suite à des vidéos, bah en fait je me suis retrouvé avec un nombre d'abonnés qui est pas mal pour Twitter, qui est pas forcément très haut pour les autres réseaux sociaux, mais qui est pas mal. J'ai 13 000 abonnés et donc je republie des vidéos en créditant. Donc j'écris d'où elle vient la vidéo, mais par exemple des moustachus, de parlons franc, etc. Parce que eux quand ils les publient, comme ils ont bah, soit ils les publient pas parce qu'ils n'ont pas de compte Twitter, ils veulent pas aller dessus, parce que c'est vrai que c'est une plateforme. Faut être particulier, quoi. Faut pas avoir peur de se faire insulter. Moi, je mets une vidéo. Là, par exemple, j'ai mis une vidéo des moustachus. Elle a fait 2 millions de vues, je crois. C'est 2 000 insultes que je me mange en permanence. Hein. Le téléphone. Enfin, du coup, c'est pas moi qui les mange parce qu'elles sont pour les moustachus, mais c'est moi qui les lis. Et techniquement, les mecs qui insultent, ils savent pas que les moustachus, c'est pas moi. Enfin, bref, ils m'insultent moi directement, quoi. Et faut pas avoir, parce que ça peut faire péter un boulon et ça donne envie de répondre, et dans ce cas-là, on rentre dans une spirale où ça nous fait péter un câble. Moi, je m'en tape complètement, j'ignore complètement. Moi, le but, c'est vraiment de diffuser les idées, enfin des vidéos et des idées pour la France, pour le terroir, partager ces comptes-là pour qu'ils gagnent, eux, en visibilité, en notoriété. Me faire insulter toute la journée, franchement, ça m'est égal. En plus, la particularité de Twitter, c'est que 99% des gens qui vont t'insulter sont en anonyme, donc en pseudo, et avec photo anonyme. Donc, vraiment, c'est pas comme si ton collègue de travail t'insultait, que tu le croisais tous les jours. Là, c'est des gens qui, derrière l'anonymat, ils ont des couilles qui poussent et ils se permettent de t'insulter. Mais tu sais que c'est comme un petit roquet qui aboie très fort. Le gars, il n'a pas les couilles de mettre sa propre tête sur son compte Twitter. Alors qu'en soi, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Il pourrait m'insulter avec sa vraie tête, ça ne me changerait rien. Donc, tu es sûr que dans la vie, pour l'instant, il ne va pas t'arriver grand-chose. Et surtout, personne ne va venir te mettre une gifle parce que tu as eu l'outrecuidance de manger des côtes de bœuf. C'est ça, hein. Quand je mets une vidéo compilation de bouffe et tout. Je me fais insulter pour des vidéos de compilation de bouffe. Et après, vous allez vous dire, mais pourquoi t'adores ce réseau? T'es complètement sadomaso, t'aimes te faire fouetter le cul ou quoi? Ben, je peux vous. Non, 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 j'aime pas ça, mais c'est vrai que ça peut donner cette image. Putain, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'hésite à ce moment-là? Non, non, j'aime pas ça. Mais oui, ça peut renvoyer cette image. Mais je sais pas, moi j'aime bien parce que, en fait, parce que c'est le cirque et moi ça me plaît. Enfin, c'est le bordel, tout le monde se, c'est vraiment la foire quoi. Et ce côté très, en fait, je sais pas si vous connaissez Peno, l'influenceur, et le magazine La Furia que j'ai acheté le dernier là. Et Peno, en fait, dedans, il fait un article où il parle de Twitter et pourquoi, selon lui, c'est le meilleur réseau social. Et donc, il m'a vraiment beaucoup fait rire. Déjà, il écrit très bien. Et il a un passage qui est très vrai. Et qui, en fait, il a écrit un article qui fait, bah, je l'ai sous les yeux, qui fait trois pages, et qui est vraiment hyper drôle. Donc, je vous invite à acheter le dernier, La Furia, et lire ce passage de Peno qui est très drôle. Et je vais vous lire un extrait, ça vous donnerait peut-être envie. Et ça retranscrit très bien de pourquoi moi j'aime Twitter aussi. Alors, donc c'est extrait de Peno dans La Furia. Et je ne vais pas tout vous lire parce que bah déjà ce serait long. Et en plus, le but c'est que vous achetiez et pas que je fasse du copyright sur podcast. Mais bref, je commence à lire. Sur Twitter, on remarque rapidement les nouveaux. Ils n'ont pas les codes, ils postent des selfies, commentent avec bienveillance. Et vont bien sûr devoir évacuer le réseau après une dizaine de ta gueule, fils de pute, ici t'es pas sur Facebook. Reçu à toute heure de la journée ou de la nuit. Oui, parce que sur Twitter, tu peux recevoir des trucs au milieu de la nuit. Tu te réveilles le matin, il y a un mec à 4h20, il est rentré de soirée ivre-mort et il t'a traité de fils de pute parce que tu mangeais une soupe, quoi. Enfin bref, je reprends. C'est la sélection numérique, la jungle, le Bronx, l'asile. Et c'est ça qui est drôle. Je suis tout à fait d'accord. Toute l'actualité s'y trouve à la seconde près, avec des reporters impliqués sur tout le globe, prêts à dégainer leur téléphone pour vous partager la plus belle baston de serveurs obèses du McDo de Chicago, le plus gros ouragan, le plus gros incendie, le plus gros attentat. À l'époque, on avait Webshock et Roten. Putain, Webshock, quelle époque! Aujourd'hui, c'est sur Twitter. Cette appli, BFM, TPMP peuvent fermer. Sans cette appli, pardon, BFM et TPMP peuvent fermer définitivement, puisque 100% de leurs infos sources et médias viennent de là. Finito Robert avec sa camionnette et son micro qui débarque 3 heures après sur les lieux du crime. Welcome à Cacamusqué 93, qui a tout filmé en 4K 60 FPS et qui a déjà 10 000 likes, sous lesquels vont pouvoir se déchaîner. Des blagues sur le physique de l'agresseur, des débats sur la Palestine, des montages drôles et des experts en sociologie qui peuvent désormais déterminer l'origine des protagonistes, même quand ils sont de dos avec une capuche. Enfin bref, voilà. Ce passage exprime très bien pourquoi j'aime Twitter, parce que c'est la jungle, mais tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner son avis, c'est littéralement ça. Et tu peux interpeller le président. Le président, il écrit un tweet, tu peux écrire un truc en dessous et ça se trouve, tu vas faire plus de likes. Donc c'est vraiment et donc ton commentaire va remonter. Enfin bref, moi j'adore Twitter, ceux qui mais il faut avoir les nerfs d'être dessus parce que oui, tu vas te faire insulter, oui, c'est la jungle. Bah ouais, bah c'est comme ça. Voilà. Et au moins c'est pas aseptisé, tu vois. Donc je disais tout ça pour dire que sur Twitter, moi j'essaye de mon côté de diffuser les vidéos des autres pour qu'elles gagnent en visibilité, que eux gagnent en visibilité, que le milieu terroir France gastronomie patrimoine, etc. Fasse son trou là-bas aussi, parce que bon, là-bas, ça parle beaucoup de politique. Enfin, ça parle de tout et de rien. D'ailleurs, il y a des communautés de tout et de rien, mais je trouvais que la nôtre, en tout cas, était inexistante. Et comme j'ai un compte que j'ai fait grossir, j'essaye de l'utiliser à cet effet, quoi. Donc, si jamais vous voulez me suivre sur Twitter, vous tapez 12 de France. Normalement, vous allez me trouver. Et n'hésitez pas à me suivre, à retweeter et tout, c'est important. Important d'être présent là-bas aussi. Voilà. Et contrairement à Instagram, Twitter, ça me saoule pas du tout. Mais c'est vrai que le côté de se faire insulter toute la journée, je comprends que pour certains, ça c'est désagréable, parce que oui, c'est désagréable, mais en fait, moi, je lis pas, hein, tout simplement. Hein, donc forcément. Ça me saoule moins. Et puis même, tu peux tourner des mecs en dérision, poster des mèmes. Enfin bref, moi j'adore. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que là-bas, je me fais insulter par des mecs. Et bon, je vois bien leur pseudo, des fois, tu vois dans les notifications, ou des fois c'est des comptes certifiés ou des gros comptes. Donc leurs commentaires remontent. et je vais voir. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que des fois, c'est des influenceurs de gauche, des fois, des mecs qui se revendiquent de droite. Mais en ce qui concerne la sphère patrimoine et tout, bah, en fait, il n'y a aucun distinguo entre les mecs qui critiquent et qui sont de gauche et les mecs qui critiquent et qui sont de droite. Ce sont tous les deux les mêmes critiques de merde. C'est vraiment, en fait, c'est des gars, c'est des aigris de la vie, donc c'est pour ça qu'ils sont sur Twitter. C'est le camp qui a pas de couilles, parce que bien sûr, ils sont tous en anonyme. C'est le camp anti-fun, anti-France. Ouais, c'est le camp des mecs de gauche et de droite anti-France et anti-fun, parce que, en fait, une vidéo de compilation de bouffe, tu sais, les mecs, ça les fait péter un câble. Ouais, mais c'est pas ça la France c'est autre chose. Mais tu sais, même si tu montrais autre chose, ils critiqueraient, ils diraient, oui, mais la France c'est aussi la gastronomie. Tu vois, y a des mecs. Tu mets une vidéo, il y a deux fromages. Oui, mais la France, c'est pas que des fromages, il y en a aussi 250. Mais t'es un fils de pute. Déjà, merci pour le commentaire, parce que ça fait augmenter les stats et donc ça fait plus de visibilité à ma vidéo. Mais oui, mais t'es un mongolien, en fait. T'es un mongolien, tu crois que quoi, je suis là pour faire un long métrage, et de toute façon, même le long métrage, tu le critiquerais quand même. Enculé. Hein. Voilà, bon, bref, il y a un énorme regroupement de gens très intéressants, mais aussi de gigantesques mongoliens qui donnent leur avis pour tout et de rien. Ils se revendiquent de différents courants, mais de toute façon, c'est les mêmes. Hein. C'est des bots, c'est des CTRL-C, CTRL-V. C'est juste que certains pensent être d'un courant et d'autres d'un autre, mais en fait, c'est les mêmes merdes et les mêmes cassos. Et ils comprennent pas que, oui, bah, quand tu fais des vidéos, ça peut être très caricatural, très centré sur un milieu, même voire un peu cliché, voire. Mais en fait, le but de la vidéo, c'est de faire un peu rêver, sourire, donner envie aux gens de la liker, de la suivre, de suivre le compte. Donc forcément, il y a un effet loupe, il y a un effet caricatural, mais ces gros mongoliens, ils sont pas capables de le comprendre, tu vois. Si tu filmes la vie ordinaire d'un mec ordinaire et tu mets sur les réseaux sociaux, bah, tu as beaucoup moins de chances que ça marche. Parce que bah, on n'a pas tous des vies. En fait, même un mec qui a une vie de ouf, bah, la plupart des moments de sa vie, c'est des trucs banals, en fait. Qui va retranscrire ça? Quel est l'intérêt? Mais de toute façon, tu ferais ça, tu te ferais insulter de fils de pute quand même. Donc, il n'y a rien à y gagner, quoi. Donc, faut poster ce qu'on aime, et puis on met, et puis si des gens suivent, ça veut dire que des gens aiment, et puis basta, quoi. Faut voir le résultat final. D'ailleurs, ceux qui écoutent ce podcast, là, qui m'envoient souvent des messages privés, je me demande si des fois ça pourrait être intéressant de faire vlog en mode vlog de commercial. Je sais pas trop comment je pourrais le faire, ça se trouve je le ferai jamais, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser, genre petite journée dans la peau d'un commercial en alcool qui va dans des restos et tout. Voilà, si jamais je pose ça. Bon, pour les rubriques, parce que voilà, ça, on commence à être un peu plus de 40 minutes là. Alors, je vous ai posé des questions. Enfin, je vous ai demandé de me poser des questions. Alors d'abord, je vais faire la rubrique, mes petites découvertes de la semaine. Donc pour ceux qui sont à Paris, le Guersan, bistrot Le Guersan dans le 17e, qui vient de gagner la Coupe du meilleur pot et qui a été lauréat du Guide Pudelot de l'année dernière, enfin de cette année plutôt. Le restaurant Le Guersan dans le 17e, très cool, hyper bonne ambiance, les serveurs sont super sympas. Il y aura peut-être bientôt du demi-chelot, peut-être. J'ai dégustation la semaine prochaine, on verra s'ils si achètent. Par contre, il faut réserver, mais il faut même réserver très tôt avant parce que maintenant il est blindé. Mais petit bistrot, vraiment très cool. La cuisine est bonne, l'ambiance est sympa. Franchement, vous allez vous régaler. Donc, je vous conseille le Guersan dans le 17e. Hier, j'étais à Gueuleton Saint-Germain, donc Paris 6e. Parce qu'il y a deux Gueuletons, il y a un Gueuleton dans le 17e et un Gueuleton dans le 6e. Alors, je sais pas s'ils le font aussi dans le 17e, mais dans le 6e, ils font un croque-monsieur, mais avec du boudin noir, et ils ont appelé ça le croque-boudin, et après ils mettent aussi d'autres trucs dedans. Hein, mais putain, qu'est-ce que c'est bon en entrée! Par contre, c'est costaud. Hein. Moi, je vais là-bas, je bouffe que deux entrées, hein, parce que. Bah déjà, parce que je bouffe au resto tous les jours à cause de mon métier, ou grâce à mon métier, donc il faut que je fasse un petit peu gaffe à ce que je mange. Hein. Mais ça, à chaque fois que j'y vais, putain, je prends ça, c'est tellement bon, un croque-boudin en entrée là. Je vous conseille d'aller vous goûter ça à Gueuleton Paris 6e. Vous allez vous régaler. Et j'ai découvert un fromage en allant manger chez un ami de ma paroisse samedi dernier, qui est un fromage de l'endroit où il était, où il est né quand il était, enfin, où il a vécu quand il était gosse. Ça s'appelle le Langres, Langres. Le Langres, c'est un fromage de vache à pâte molle. Qui est un peu comme ça à la verticale, là, on dirait un soufflé un peu, qui vient de la Haute-Marne, donc dans la région actuelle du Grand Est. Voilà, un fromage hyper crémeux, qui sent fort au nez, mais qui est beaucoup plus doux en bouche et tout. Donc, c'est vraiment hyper agréable, très frais. C'est ma petite découverte culinaire de la semaine, le fromage Langres, franchement. Et je crois que c'est pas si cher que ça. J'avais vu ça chez le fromager, enfin au marché. Alors, il faut savoir que j'habite à Paris-Ouest, donc zone Boulogne-Billancourt. Voilà. Et donc, je vais au marché là-bas. Je pense que c'est l'un des marchés les plus chers de France. Donc, c'était un des moins chers chez le fromager du marché. Donc, je suppose que si vous vivez en dehors de ce putain de Paris, c'est un fromage qui est vraiment pas cher. Et encore plus si vous êtes du coup en Haute-Marne. Mais là, dans ce cas-là, vous le connaissez déjà, je suppose. Mais le Langres, ouais, très très bon. Très très bon. Voilà, petite découverte culinaire depuis la semaine dernière. Et donc, vos questions maintenant. Alors, attendez, faut que je les retrouve. Faut que je les retrouve. Tac, 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 tac. Ah, et voilà. Alors, il y en a quatre. Quel est ton top 3 des régions françaises? Bouffe, alcool, culture, géographie. C'est compliqué parce que je vais en dire 3 et tous les autres, du coup, vont me dire que je suis un gros con. Bienvenue sur Twitter. Alors, je pense que je vais dire la Haute-Savoie, de base. Parce que les alcools, quand t'aimes les alcools forts et toutes les liqueurs de plantes et tout, c'est absolument dingue. La géographie, bah, laisse tomber. Après, c'est faut être petite montagne, hein, mais je suis désolé. Les Alpes, en fait, toute la région des Alpes, c'est sublime, quoi. C'est incroyable faire des randonnées là-bas et tout. Enfin, le truc est monstrueux, quoi. C'est irréel tellement c'est beau, en fait. Et la bouffe, bon, plutôt bouffe d'hiver, hein, avec un max de fromage et tout, mais la bouffe, c'est une masterclass aussi. Donc, allez, je dirais la Haute-Savoie en numéro 1. Après, juste au-dessus, la Franche-Comté, c'est pareil, parce que bah, niveau alcool, t'as des bières, t'as des anisés avec le Pontarlier, t'as toujours des alcools de plantes. Moi, je vais pas dire de région viticole, hein, parce que moi, je bois des alcools. Moi, en fait, je bois de la bière et des alcools forts, je bois quasiment pas de vin. Donc. Quand je bois du vin, je bois de la Bourgogne. Donc, je suis un enculé, voilà. Ou du Rhône septentrional, nord du Rhône. Mais sinon, quasiment que de la Bourgogne. Donc, je vais pas donner de région viticole. Donc, j'irai la Haute-Savoie, la Franche-Comté, pareil, paysage sublime, un peu plus de forêt et tout. Donc, très beau. Et après, je vais dire la Corrèze, parce que c'est la région historique d'une partie de ma famille. Donc, la Corrèze, c'est beau, tu y manges bien. Les vaches, les pommes, le plateau de 1000 vaches, Uzerche, Ussel, Tulle, la ville de François Hollande. Putain, merde, un argument pour le virer. Putain, la Corrèze, c'est Jacques Chirac, François Hollande. Quelle horreur. Et il y a Collonges-la-Rouge, magnifique ville. Brive-la-Gaillarde. Enfin, bref. On y mange bien, on y boit bien. Et en plus, c'est idéalement situé parce que t'es à côté, enfin, t'es à 2 heures de tout. T'es à 2 heures de Bordeaux, à 2 heures de Cognac, à 2 heures de. Peut-être pas 2 heures de la mer, mais enfin, voilà, en gros, globalement, tu traces un rayon de 2 heures autour. T'es vite dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal. Donc, t'es pas loin du Puy-en-Velay. T'as des jolis paysages du Cantal. Tu peux vite aller bouffer. Du fromage, de la truffade à côté. En fait, la Corrèze, c'est bien déjà parce que c'est beau. C'est vrai que c'est très abandonné. Hein. Je crois que c'est la deuxième région, le deuxième département le plus pauvre ou le plus dépeuplé, je sais pas, peut-être les deux, de France après la Creuse. Donc, ouais, c'est costaud. Hein. L'hiver, il doit être long là-bas. Hein. Mais bon, région historique de la famille, donc c'est un argument coup de cœur. Et puis, sa position géographique qui est sympa. Si t'aimes bien faire 2 heures de voiture, en fait, t'es à 2 heures de plein de trucs cool. Donc voilà. Et puis, tu commences à être dans le sud, donc il fait beau. Voilà. Donc, je dirais Haute-Savoie, Franche-Comté, Corrèze. Après, bah, c'est sûr que la Bretagne, j'adore, la Normandie, j'adore, le Sud-Ouest, j'adore. Mais voilà. Il fallait en choisir trois, donc tous les autres, vous pouvez me traiter d'enculé, je comprendrai. Je comprendrai. Puis vous avez vu, je suis sadomaso, moi, je peux encaisser les insultes à l'infini, en fait. Pour toi, quel est l'avenir des entreprises dans l'alcool sur le marché français international? Alors, je vais tenter de répondre brièvement. Je pense que la semaine prochaine, je ferai un épisode sur la baisse de la consommation d'alcool, expliquer les différents facteurs et ce que j'en pense. L'avenir des entreprises d'alcool, bah déjà il y en a énormément, donc forcément il y a un écrémage, surtout quand le marché devient beaucoup plus difficile, tendu, il y a un écrémage, donc beaucoup vont disparaître, mais après ça c'est normal. Donc, il restera techniquement ceux qui distribuent le mieux ou ceux qui ont la meilleure qualité. Marché français, en fait, il y a tout intérêt à le développer parce qu'il y a beaucoup d'alcool qui part à l'export. Donc, il y a intérêt à le développer parce qu'il y a déjà du monde. On reste un des pays qui boit le plus d'alcool au monde. Notamment, les pays européens sont partie des plus gros consommateurs par habitant. Hein, donc, ça reste des marchés qui, quand même, vivent pas mal. Problème, c'est l'appauvrissement des Français, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, le marché de l'alcool dépend beaucoup en fait de la situation du pays. Si la France et les Français continuent de s'appauvrir, bah ça va être dur, mais ça va pas être dur pour que pour le marché de l'alcool. En fait, ça va être dur pour tout le monde. Donc voilà. Et à l'international, bah c'est vrai qu'avec l'instabilité de Donald Trump, c'est un peu compliqué parce que difficile de prévoir. Mais on reste quand même le pays qui a potentiellement le plus la cote au monde sur nos alcools. Donc disons qu'il ne faut pas être tout le temps pessimiste. On rentre dans une zone très dure. Dans le marché de l'alcool, on dirait pas comme ça vu de l'extérieur, mais en interne, ça fait déjà 2-3 ans que c'est très dur. Donc j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment beaucoup plus s'empirer qu'à l'heure actuelle. Donc bah, il faut de la résilience. C'est aussi dans les crises qu'il y a des coups à faire. Donc marché de l'alcool, bah, il va continuer de baisser en consommation, ça c'est inévitable. Mais disons que la France a quand même. Je m'inquiéterais plus pour le marché de l'alcool dans un pays moyen, quoi. Voilà. Donc en produit qui produit pas que des trucs de dingue. En France, on est quand même bien doté là-dessus. Est-ce que tu comptes un jour ouvrir un point de vente physique? Alors franchement, je pense pas, parce que beaucoup de problématiques qui sont un loyer à payer, acheter un fonds de commerce, faut payer des salariés. Donc si tu as des salariés, c'est-à-dire que tu as potentiellement des emmerdes qui viennent avec, énormément de charges. Donc c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent et pour le rentabiliser, bah, c'est un pari. Peut-être des pop-up stores, donc ce qu'on appelle les magasins éphémères, quoi, pendant des périodes, genre à Noël ou trucs comme ça peut être intéressant. Mais je préfère privilégier mon argent pour des salons ou des magasins éphémères ou des événements privés que pour ouvrir une boutique pour l'instant. Et dernière question, un topo pour s'y retrouver dans les Mistels. Bah, les Mistels, donc les Mistels, si vous ne savez pas ce que c'est, j'aimerais bien faire un épisode dédié, mais Mistels, en gros, c'est les alcools qui sont des mélanges entre des en fait, c'est des. Par exemple, le Pinot des Charentes, c'est. J'ai plus le nom, c'est des vins, je sais plus quoi là. Bon, bref, en gros, les Mistels, c'est Pinot des Charentes, le Pommeau. Le Macvin, le Riquiqui, le Floc de Gascogne, qui sont les assemblages entre des jus de fruits et des eaux de vie du même fruit, vieillis ensemble en fût de chêne. Et parce que c'est pas des vins doux naturels, mais c'est des. Enfin bref. Donc c'est des alcools qui sont faibles en alcool, c'est des apéritifs sucrés et avec des goûts très intéressants, parce que souvent ils sont vieillis assez longtemps quand même. Donc, bah pour vous y retrouver, c'est vrai que c'est assez compliqué d'en trouver, d'en acheter. Moi, je vais me mettre à vendre du Pinot des Charentes bientôt sur mon site demichelot.com et une Mistel de framboise. Donc, j'ai envie de vous dire, pour vous y retrouver, un petit topo, bah, je ferai peut-être un épisode où j'approfondirai ces alcools parce que c'est extrêmement intéressant et déjà, ils sont pas chers, trop peu connus. C'est vraiment des alcools terroirs français, des particularités françaises. Ça peut plaire aux hommes comme aux femmes et ça se boit très facilement. Donc, je pense que je vais les approfondir dans un épisode dédié aux alcools. Et sinon, je vous dirais d'attendre que ça soit dispo sur demichelot.com. Hein. Les affaires sont les affaires. Bon, voilà. C'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez me soutenir, demichelot.com. Rappelez-vous, fin mai, en prévision de la fête des Pères, sort 4 maquisards et 1 Dose de France. Gin, whisky, cognac, armagnac, calvados. Si vous voulez vous souvenir de ce que c'est, vous retournez au début de l'épisode quand je les explique. Et bien, de toute façon, on va bientôt mettre les visuels sur le site internet. Donc voilà, je compte sur vous. On se revoit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.